continuer le cours. Comment faire un travail sur le ressenti des personnes et les femmes en tant qu'actrices. Ce qu'elles vont apprendre, elles peuvent l'appliquer n'importe où. Donc, ce dont on discute au cours, ça dépend de ce dont les femmes ont envie de discuter, puisque ce sont elles qui amènent le sujet, et qui amènent les situations, ce qu'elles ont envie de raconter, tout ça. Donc, nous, on n'est pas là pour leur dire où elles vont vivre des violences, et leur dire que dans ce contexte-là, on utilise ça, dans ce contexte-là. On leur donne tout un panel d'outils et elles échangent leurs outils parce qu'en fait elles ont plein. Et parfois elles ne se rendent pas compte, mais en fait elles ont plein. On a plein de stratégies, on a toutes les stratégies. Mais on ne se rend juste pas compte qu'on est actrice de notre sécurité et de notre. Parce qu'il y a aussi un truc culturel peut-être qui fait qu'on a tendance à nous placer un peu en position d'infériorité, d'impuissance, de passivité face à la mission, alors que c'est très rare une passivité. On a toutes les stratégies, même les stratégies de coupe, mais très bonnes stratégies.
On enregistre la conversation, j'espère que c'est ok, avec les deux, chaque fois qu'il y a un mot qu'on ne comprend pas ou qu'on veut savoir un peu plus ou avoir plus d'informations dessus, je propose qu'on fait comme on fait toujours, on fait comme ça, pour ne pas déranger la personne dans la phrase l'aide il y a une saison. Et aussi, donc nous, on paraphrase les mots qui ont été intéressants avec leur explication et la contexte pour le dictionnaire. Et c'est l'idée aussi, chaque fois, faire une émission radio, mais la rencontre. Mais là, jusqu'à maintenant, on travaillait avec la Nina, donc c'est juste la voix, on dessine un peu le contexte pour travailler, mais donc, ça c'est un choix. C'est pour expliquer la grande présence de l'unique. Et on peut continuer le.
C'est bien, je voudrais expliquer à Patricia qui est arrivée le cadre de cette rencontre. Donc, depuis que ma première, le Zé Garin, avec son collègue aujourd'hui, donc, pour travailler sur les femmes dans cette espèce publique. Mais effectivement, c'est un peu difficile de parvenir justement sur ce public-là. Ouais. Et, voilà, nous on change de stratégie, on va dire, pour
que ça marche, parce que voilà, là, par exemple, on a failli, on allait à la maison des femmes, on allait dans des endroits un peu stratégiques comme ça, mais ça, c'est pas comme ça, ça allait trop fonctionner.
Et donc, c'est une garderie momentanée où tu déposes pas ton enfant au cours de la journée, mais tu déposes pour un jour de travail. Pour aller faire les
ce que je fais ou...
Ah oui.
Ce matin, j'ai déjà fait quelque chose de tellement spécifique que ça continue à marcher le matin. Je fais aussi partie de Constant, mais je ne fais pas partie de ce projet. J'ai plusieurs chapeaux. Un chapeau, c'est chez Constant et j'organise des ateliers, surtout autour de l'électronique dans un contexte artistique. Et aussi, j'utilise donc les logiciels libres pour la création. Aussi, tout ce que j'utilise comme outil, c'est libre, dans le sens que il y a des manuels, il y a des plans. Tu peux ouvrir les choses et tu peux, parce que tu sais ouvrir, tu peux montrer à des autres.
En fait, elle fait du bricolage avec des outils électroniques.
Non.
Bricolage artistique, mais bricolage.
C'est, oui. Non, mais par exemple, au mois de décembre, je vais organiser un atelier de réparation. Et ça va être réparation textile, mais aussi réparation d'électronique. Parce qu'il y a, quelque chose de très parallèle dans le sens que dans le cousu, il y a des fils qui cassent. Dans l'électronique, il y a des fils qui cassent. Il y a des, mais la façon de détecter les erreurs, c'est forcément différent. Mais mettre les deux à côté... c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. À part ça, c'est vrai que je fais des choses interactives. Un gant qui mesure la force d'un
poil de main.
Oui.
Ça serait bien pour le tour de ton défense.
Oui.
Essayez le gant.
Est-ce qu'il est fonctionnel? Et des choses comme ça. Souvent avec du son. Et ce que mon tunnel de ce matin, c'est on essaye de faire une carte interactive où tu fais jouer le son avec un spelt. Pas aiguille, mais le truc avec la boule.
Un crochet?
Non. Tu vois quand tu
comme
fais...
crochette? Pour faire des crochets?
Non, non. Quand tu fais... avant de coudre, tu plies et tu mets
Une épingle.
Épingle. Ouais. Donc, il y a une carte, tu mets une épingle et il y a le... Oui. Il y a le son qui joue. À voir.
Ah oui. Donc moi je m'occupe, je travaille ici, donc ici au sens propre, je travaille là même, sur mon bureau, et je m'occupe de la coordination des contrats de quartier dans le portail. Donc je ne sais pas si je vais embrayer sur le contrat de quartier, mais vous savez ce que c'est, vous savez toutes les deux ce que c'est un contrat de quartier.
Mais
oui, je vous ai expliqué, voilà. Donc je coordonne toutes les opérations. Et ici, je suis là pour un petit peu soutenir et puis ouvrir, mettre à disposition le local. Et participer en même temps.
Et vous habitez à Scarbeck ou
non,
pas du tout?
Je n'habite pas à Scarbeck. Je n'habite plus à Scarbeck.
Mais tu travailles ici?
Je travaille ici. Je passe plus de temps ici que chez moi.
Voilà. Et Anne, vous voulez présenter?
Donc, j'habite à Scarbeck. Mais pas dans... Je ne sais pas quoi dire. Qui a retenu mon attention, bon, femme, oui, ça je suis comme ça. La sécurité, voilà, l'histoire de sécurité, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas en sécurité, comment réagir à ça. Alors, c'est... Vous aimez que votre voix soit entendue. En fait, pour le moment, j'ai l'impression que je ne travaille plus. Je ne suis plus rémunérée depuis 2 ans. Ça va faire la 3e rentrée, je crois, des classes où je n'étais plus au lycée.
Vous étiez professeur?
Oui, pendant une trentaine d'années. J'enseignais le français, donc c'est très lié aux mots. Voilà, il y a les mots, voilà, l'histoire des mots. Et depuis, je ne parle plus. Ou plus beaucoup. Donc... c'est handicapant parfois. C'est pas que je sois incapable de parler, parfois j'ai quand même des doutes sur mes capacités. Mais c'est vrai, Et c'est vrai, parce qu'on parle de quoi? De quoi? De dehors, de dedans, on fait quoi? Il y a donc plein de questions dès lors qu'on n'est plus dans, un, dans une structure. Mais je continue à faire des ateliers voix chez moi, parce que je travaille avec les sons, avec, mais, de façon, avec des mantras, des choses comme ça. Et j'étais dans ma cave l'autre jour en essayant de, pour but de commencer à mettre de l'ordre dans mes dossiers, dans tout ce que j'utilisais au lycée. J'ai vu qu'il y avait une masse de choses que j'avais accumulées, surtout au niveau des textes et du travail que les gens faisaient avec les textes, la voix. Et je me suis dit, je fais quoi avec ça? Et puis, bon, là, c'est une toute autre démarche, mais ça. Tiens, voilà, on est quand même dans le monde où il y a des, on est des êtres humains, donc il y a des mots. Voilà, j'ai une agression, je ne sais pas si. Ça vient pas dans une présentation, mais j'en ai eu plusieurs. Il y a une époque où, donc j'habite ici depuis un peu plus de 20 ans, et il y a une époque où j'étais beaucoup dans la vie de la nuit aussi, la vie de la musique, puis la vie, ça a dérivé sur la vie de, juste de l'alcool et puis de la musique, enfin, mais alcool et tout, d'autres choses qu'on prend qui changent notre comportement, et ça veut dire qu'on a une limite très grande par rapport à la violence. Une tolérance très très grande, donc c'était quelque chose d'un peu banalisé, puis on est un peu pété, donc quand on se réveille, on n'est pas bon du tout, mais on traverse ça, quoi. On traverse ces trucs comme des zombies, et puis on continue, on se prend une douche, on va au lycée, après, on est quelqu'un d'autre, on change tout le temps de personnage. Et il se trouve qu'avec le travail des sons, tout ça, j'ai arrêté l'alcool, je suis tout à fait abstinente, et... Bon, là-dessus, sur ces entrefaites, maman est tombée, a eu des accidents, on appelle ça, accidents, des mois.
De cœur, de...
cardiovasculaire. Et donc, elle était en fin de vie, voilà, on a vécu 6-7 mois comme ça. Et pendant cette période, donc une période difficile, où j'étais beaucoup à l'hôpital, je faisais la rue de Brabant parfois à pied, et aussi j'achetais des vêtements que maman se souillait tout le temps, donc j'étais très pressée, je traverse la rue de Brabant, et puis un jour, j'étais plus calme, je me laisse le temps. Et là, je me suis fait, dans une boutique, je me suis fait agresser. Ça a l'air invraisemblable, complètement fou. Quand je le racontais, j'avais l'impression que je racontais des trucs pas vrais, quoi. C'est une boutique vide. À l'extérieur, il y avait des babouches très colorées, très particulières. Et je savais qu'elles étaient là et je traçais, je les voyais, je faisais pas attention. Puis ce jour-là, j'avais le temps, je les regarde et le monsieur, il m'invite à rentrer à l'intérieur. J'essaye des babouches et puis il n'y en a aucune qui me plaît, enfin qui me plaît assez pour les acheter. Alors je vais ressortir et au moment où je vais franchir la porte, il dit non, vous sortez pas, il met la main comme ça, il y a de la porte. Donc, je suis là, elle est là, non, vous sortez pas, non, je crois qu'il plaque. Et j'ai un grand sourire, je vais traverser. Mais il me dit, vous ne sortez pas. Il me prend là, il me pousse dans... Donc c'est des longs magasins. Mm-hmm. Et ce magasin était très vide, il y a juste des djellabas sur les côtés. Et pas, il n'y a rien au milieu, quoi. C'est comme chez le couturier. Et il me pousse. Et puis il appelle un autre gars qui était dans la rue, qui était à l'entrée. Et l'autre homme, je comprends en français, il lui dit... Non, pas comme ça. Mais moi, je comprenais plus. Tout à coup, j'ai une panique. C'était mes fantasmes peut-être. J'ai eu peur qu'ils m'enfoncent complètement dans le magasin. Et en une fraction de seconde, j'ai des images complètement délirantes. Je ne sais pas si d'être, par exemple, au couple tailladé, filmé, des trucs comme ça. J'ai hurlé et poussé vers la rue, quoi. Et là, il y a des gens qui passaient. Et qui entendait mes cris. Et donc j'accrochais le regard des gens vraiment pour ne pas me séparer d'eux, j'hurlais. Et l'un a dit à l'autre, va fermer la porte. Et moi je tirais, je suis arrivée à la porte à peu près en même temps, quoi. Donc il me poussait, je poussais dans l'autre sens. Et j'hurlais. Et arrivée à la porte, il m'a donné une tarte, il m'a flanqué dehors sur le trottoir. Il a pris mon sac, j'avais le sac à dos, là, il me l'a lancé par terre. Je me suis retrouvée. Par terre, j'ai reçu deux baffes, je me suis retrouvée par terre. Rue de Brabant, il y avait plein de gens autour de moi. Le temps que je me relève, ils avaient disparu. Je commençais à raconter à une dame, quand j'ai fini, elle est partie, elle ne comprenait pas, elle me fait comme ça. Et donc, me voilà seule avec le type qui m'a traitée de voleuse. Alors, quand il m'a mis dehors, il m'a donné les claques, il m'a dit voleuse. Bref, je suis rentrée chez moi et là, il y a le colocataire, enfin, la personne qui habitait là, je lui raconte, il est retourné avec moi, il a dit, viens, on retourne. Et là, le monsieur a dit, de toute façon, vous avez volé, vous avez pris quelque chose, mais vous voyez bien que j'ai rien volé. J'ai pris du temps à me rendre compte que j'avais rien volé. Mm-hmm. En me disant, mais puisqu'il avait mon sac, il voyait bien qu'il n'y avait rien qui lui appartenait. Mm-hmm. Donc il a inventé, quoi. Donc il sait ce qu'il fait. Mais bon, bref, je retourne dans le magasin avec le voisin et il nous dit, asseyez-vous, on appelle la police. Mm-hmm. Le voisin, il a eu peur aussi, il m'a dit, viens, on s'en va. Quoi. Parce que j'ai dit, bon, c'est pas la police qui va appeler, c'est peut-être d'autres personnes. J'ai été au centre d'être victime, qui a eu le lendemain.
Le bureau d'accueil d'assistance policière aux victimes.
Oui.
Qui est ici, rue Royale.
Oui, voilà.
Oui, c'est ça.
C'était un jeudi. Le vendredi, j'étais chez le médecin d'abord, pour faire constater, parce que j'avais des bleus quand même, j'avais des marques, parce qu'il m'achetait pas intégré comme des bleus et tout. J'étais faire mesurer tout ça, et puis j'étais au bureau d'aide aux victimes. Mais là, la personne m'expliquait que malheureusement, ils auraient accès à un dossier si je faisais une plainte.
Ouais.
Ils auraient accès à un dossier. Donc pour moi, c'est hors de question.
Vous déposez plainte ?
Bah, oui, je veux pas que ces gars arrivent chez moi. En plus, oui, ce que je faisais référence à maman, parce que à cette époque-là, j'avais. Ça va, je peux continuer ? C'est pas tout embrouillé, cette histoire. À cette époque-là, donc, comme ma mère était dans cette situation, qu'elle ne pouvait plus parler, j'étais confrontée à mon frère, qui est un homme très violent, qui est en col blanc. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement violent, c'est mafieux.
Col blanc,
ah, peut-être.
Parce que tu me travailles.
N'empêche que c'est un requin, c'est un voyou, quoi. Voilà. Et que c'est un. Donc j'étais en médiation, je voulais pas voir mon frère en face à face, il y avait une médiatrice. Mmh. C'est un homme violent aussi, enfin violent de toutes les façons, quoi. Pour qui on n'existe pas, nous on fait que des conneries ici. Et donc il y avait cette violence-là, de tous les jours, que je risquais de le voir quand j'allais à l'hôpital chez ma mère. Et puis il y avait la violence de ces mecs. Enfin, et il y avait cet état de choses, est-ce que je porte plainte, je ne porte pas plainte. Et c'était difficile, cette histoire-là, de décider, je vais porter plainte, finalement je ne l'ai donc pas fait. J'ai eu quelques jours de maladie, suite à ces coups et tout, ces chocs. Et ma préfète, je lui raconte en deux mots, j'ai fait un peu plus court. Elle me dit, quoi, mais c'est un devoir citoyen d'aller porter plainte. Je dis, merde, en plus, je ne fais pas mon devoir citoyen. J'étais mal, mais c'était que ça venait de tous les côtés. Y a une amie qui habite plus à Bruxelles, qui serait très intéressée par ta démarche, et qui avait été voir le bourgmestre, comme elle le connaissait un peu, en disant, ben voilà, quoi, ma copine, il lui arrive ça, elle est agressée, mais elle n'ose pas porter plainte parce qu'elle ne se sent pas protégée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, lui, le bourgmestre a pris contact avec un commissaire police qui a dit oui, elle peut quand même peut-être venir nous dire. Et nous, mais on va aller voir ce qui se passe, sans plus. Donc, ce qui s'est passé, la police a été voir dans ce magasin, mais n'a rien trouvé d'anormal. Mais je n'ai pas porté plainte. Je suis retournée au centre d'aide aux victimes pour faire un petit point de tout ça. Et la dame m'a dit, ouais, c'est vraiment à vous de décider. Mais elle m'a plutôt dissuadée en me disant qu'il y a peu de chances que ces plaintes aboutissent, forcément. Et qu'alors, vu la situation où j'étais, ces difficultés par rapport aux frères, sortir la vérité, la violence et tout, ça risquait d'être pire parce qu'on s'engage dans une plainte et puis ça s'envole, quoi. Et c'est encore une fois le silence, c'est encore une fois le non-dit qui prévaut. Et voilà, cette histoire de... Bon, ça fait quelques années, ça fait 3 ans maintenant, mais si j'y réfléchis, il y a peut-être encore d'autres choses. J'imagine qu'il y a plein de gens, enfin, il y a d'autres gens. Ce qui m'a poussé à aller quand même, ce qui m'aurait poussé à porter plainte, c'est évidemment que ces gars ne recommencent pas. J'ai une autre copine qui sortait de l'hôpital, qui était très fragile, qui est une femme qui a eu beaucoup de problèmes de santé, qui a 45 kilos. Je ne l'imaginais pas là en train d'hurler. Mm-hmm. J'ai pu parce que j'ai pu hurler, quoi. Mais je ne sais pas ce qui me serait arrivé. J'ai aucune idée.
Et moi, je pense que vous avez eu de très bons réflexes. Enfin, quand vous m'avez dit, je me suis imaginé des trucs invraisemblables. Moi, je pense pas que vous vous êtes imaginé des trucs invraisemblables. Je pense que vous vous êtes imaginé des trucs qui pouvaient tout à fait arriver et que votre réaction, elle était tout à fait juste de commencer à crier et de vouloir sortir. Donc, enfin, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Quand vous décrivez ce que vous vous êtes imaginé comme quelque chose de fou, ça correspondait peut-être à un vrai risque. Donc, c'était quelque chose de tout à fait juste de s'imaginer ça dans cette situation. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui me pousse au fond d'un magasin où il n'y a personne, alors que j'ai rien fait pour... Enfin, je veux dire, j'ai rien fait pour me retrouver dans cette situation, je peux peut-être m'attendre à tout, effectivement. Oui.
C'était la mort, j'avais l'impression d'être attirée vers la mort. Mais ce que je trouve fou aussi, c'est que vous dites, je n'ai rien fait, donc la personne n'a rien fait, mais à la limite, je ne suis pas sûre d'avoir rien fait. C'est ça qui est fou, quoi.
Oui, mais c'est son attitude à lui d'être tellement sûr de lui qui peut vous faire douter de ce que vous avez fait ou pas fait.
Oui,
mais vous saviez que vous n'aviez rien fait, vous aviez essayé des babouches. Voilà.
Oui, alors est-ce que il a fallu retourner chez moi, revenir accompagner, me rendre compte que j'avais rien fait.
Mais encore,
c'est incroyable.
Encore pour avoir une telle réaction de quelqu'un, c'est pas normal.
Mais c'est vrai qu'il y a des...
Quoique, allez,
même
c'est pas normal.
Quelque chose de volé.
Non.
Oui, même, bien sûr.
Oui.
Ah,
oui, non, mais c'est ça que... Allez.
Et c'est là qu'effectivement, en écoutant ce que vous disiez sur les limites... Mm-hmm. J'ai associé cet événement à celui de ma famille, ma relation avec le frère, et donc que c'est toutes les questions qui se posent par
autour
rapport
des limites, de poser ces limites,
nos propres limites en tant que personne, qu'individu en relation avec le monde et l'éducation, comme tout ça. Bon, oui, voilà. Donc c'est bien, j'ai raconté mon histoire.
Merci. Ok, merci.
Patricia, tu veux te présenter ?
Oui, donc moi j'habite le quartier, je suis une femme, et tout ce que j'entends, évidemment, ça me renvoie très fort à ma pratique professionnelle, je ne m'attendais pas tellement à ça. Parce qu'en fait, je suis avocate, je travaille aussi avenue Armoire, donc j'ai mon cabinet chez moi, et je travaille seule ou quasi seule, enfin depuis déjà pas mal de temps. Donc je suis beaucoup consultée, notamment dans le domaine familial, et donc les séparations et tout ce qui va avec, et parfois de la violence conjugale, et surtout pendant plus de 10 ans, enfin c'est pas fini, mais j'ai été très très concernée et active comme avocate de victimes d'abus sexuels durant l'enfance ou l'adolescence, et donc soit au départ ça venait de femmes qui témoignaient de ce qu'elles avaient vécu, qui étaient dans des procédures de plainte ou pas d'ailleurs. Et puis d'enfants abusés, enfin, un peu le bouche à oreille fait qu'on est tout à coup fort consulté, surtout si on participe à certaines colloques. Enfin voilà, j'étais fort fort là-dedans, et avec des violences extrêmes, puisqu'il y avait ces femmes qu'on a appelées, qui ont témoigné en marge de l'affaire du trou, donc qu'on a traité de folles dans tous les médias belges. Ouais. Bon, là j'ai vraiment... Il y en a que j'ai suivi de très très près pendant très longtemps, donc leurs dossiers dans lesquels je rentrais vraiment avec sur la pointe des pieds, avec beaucoup de doutes, ça a fort changé ma perception de la justice et d'une violence qu'on n'imaginait pas. Parce que là, c'est les histoires des réseaux pédocriminels.
L'histoire des femmes dans la... Dans les...
Il y a Post du Trou, c'est le
X-Files.
Ça
a été fort, fort, fort médiatisé à partir de 98. Donc, c'est des femmes qui ont témoigné, qui ont accepté d'aller témoigner parce qu'il y a eu une sorte d'appel... des magistrats de l'époque, Bourlet et Conrot à Neuchâtel. Et donc, il y a eu une dizaine de femmes, et un homme d'ailleurs, qui ont été témoignées anonymement dans un premier temps. Enfin, elles sont toutes restées anonymes, sauf une. Et c'est celle que j'ai suivie de près, parce qu'elle a eu des procédures en justice. Et donc, elles ont témoigné de faits absolument monstrueux.
Directement liés à l'affaire du trou, ou bien...
Disons que ce qui était lié à des réseaux... des organisations criminelles, parce que réseau est un terme qui n'a pas de sens juridique. Ouais. Mais ce dont elles ont témoigné, qui était comme... il y avait des liens dans les dossiers que moi j'ai analysés, parce qu'il y avait certains des abuseurs, certains des auteurs qui ont été poursuivis dans l'affaire des enfants, Julie, Mélissa et les autres, étaient cités par plusieurs de ces, particulièrement un. C'est enregistré, moi je ne sais plus le nom, parce qu'il a été acquitté pour les histoires de liée aux enlèvements d'enfants, et je pense à juste titre parce qu'il n'y avait pas assez de preuves contre lui, mais les témoins, les femmes que j'ai entendues témoigner à son sujet, et elles sont plusieurs, et c'était à son sujet et au sujet d'autres personnes évidemment, il y avait énormément de connexions et d'après moi beaucoup de pistes d'enquête qu'on a arrêtées purement et simplement à un certain moment. Mais bon, c'est très complexe, hein. Je peux parler là-dessus pendant des jours, donc comme ça je ne vais pas faire. Mais donc j'ai quand même rencontré, du coup, il y avait cette principale femme qui est devenue ma cliente, puis d'autres, et puis d'autres femmes plus jeunes, enfin qui ont vécu des faits plus récemment, donc avec tout à fait d'autres personnes, aussi bien, malgré que ma cliente a été néerlandophone, la procédure était à Neuchâtel en français, parce que moi je ne peux pas me débrouiller en irlandais pour suivre des procédures pareilles. Mais il y en a en Wallonie, enfin il y en a un peu partout, encore aujourd'hui, avec des histoires d'enfants, des choses. Je me suis aussi retrouvée du coup en possession de 20 CD-ROM de pornographie enfantine, de la part de quelqu'un qui les a récoltés directement, pas sur Internet, mais auprès d'abuseurs. Oui. Et donc, il se trouve qu'avec des journalistes, tout un groupe de gens qui suivaient un peu tous ces gens, on m'a proposé d'aller les voir. Donc c'était pas une séance évidemment de cinéma, hein, mais rencontrer la personne qui fait tout ce travail depuis 89, donc bien avant l'affaire du trou. Et donc moi je lui ai dit, voilà, je veux bien avoir ce matériel, mais alors je vais tout de suite le donner à la justice avec une plainte en bonne et due forme, ce qu'on a fait. Et donc c'est bien, parce que là-dessus il y a des dizaines de milliers d'images d'enfants, il y a des films de viol qui seront, parce qu'on nous a dit que c'était pas des Belges, donc c'était pas nécessairement, enfin il y avait plein de petits blonds aux yeux bleus, c'était pas que des Asiatiques ou des Africains. Donc pas des enfants du tiers-monde, il y avait beaucoup de visages qui pouvaient être occidentaux, disons. Enfin voilà, tout ça m'a fort habité. Je peux pas mal écrire là-dessus. Il y a eu des livres, il y a eu toutes sortes d'émissions, de documentaires, d'écrits de procédures par rapport au dossier. Beaucoup, avec des plaintes qui allaient jusqu'au Conseil supérieur de la justice. Qui a estimé que toutes ces enquêtes-là étaient bien menées. Donc encore aujourd'hui, je vois des femmes qui viennent témoigner. Et par contre, par rapport à ces faits-là qui sont assez extrêmes, il y a des dossiers d'abus, évidemment, entre guillemets, plus simples. Donc, c'est un abuseur, généralement proche de la famille ou membre de la famille. Mm-hmm. Et là, je trouve qu'il y a une évolution quand même
au niveau
extrêmement intéressante au point de vue de la prise en charge des victimes et de la manière dont elles sont auditionnées, notamment les enfants. Ouais. La manière dont ça se fait aujourd'hui est beaucoup plus mûre et réfléchie. Enfin, les gens s'en rendent compte. Donc, je trouve que c'est pas pour ça que tout marche bien, mais ça a quand même évolué de manière positive. Et pour terminer là-dessus, par rapport à... Bon, alors il y a aussi tous les cas de séparation qui se passent mal. Il y a ceux qui se passent très bien, mais il y a tous ceux qui se passent mal, soit parce qu'il y a de la violence, soit parce qu'il y a des choses qui concernent les enfants, qui parfois se déclenchent même après la séparation, du fait que, tout à coup, par exemple, le père se retrouve seul avec ses enfants. Enfin, j'ai aussi été confrontée à ça dans des dossiers. Des choses très délicates, parce qu'on accuse vite les mères de vouloir... Enfin, si elles déposent une plainte pour que ce soit lié à la procédure, et que le but soit d'empêcher le père. Et j'ai aussi vu des cas où je pense qu'il y avait un peu de ça. Probablement inconsciemment, de la part de la mère, mais des abus. J'ai aussi défendu des hommes. Donc, c'est pas un monomaniaque. D'ailleurs, dans les histoires de séparation, je trouve que les femmes peuvent être parfois d'une violence psychologique extrême. Donc, voilà, y a pas, pour moi, c'est pas les bons, les méchants. Il y a vraiment... beaucoup de travail à faire là-dessus, et aujourd'hui, de plus en plus, j'ai fait des formations que je trouve vraiment passionnantes pour essayer, quand on n'a pas affaire à des pervers manipulateurs, que les gens trouvent des solutions en dehors de la justice. Et donc, c'est tout ce domaine du droit collaboratif et que je trouve plus intéressant que la médiation. Je vais en parler.
Le droit collaboratif.
Oui, qui était un drôle de terme, mais qui vient des États-Unis, du Canada. Et moi j'ai eu un peu du mal avec ce mot au début, mais en fait je trouve depuis que j'ai fait la formation, déjà c'est quelque chose qu'on fait un peu intuitivement comme avocate, mais la démarche je la trouve passionnante. Donc on se passe de la justice si on peut, et en gros alors l'idée c'est que, par exemple, prenons un couple qui se sépare, chacun a son avocat, chacun des avocats a fait cette formation, donc ça c'est les préalables, et les parties, quelles que soient, elles peuvent être vraiment en conflit fort, mais elles ont envie de trouver une solution respectueuse de leur personne, respectueuse des enfants s'il y en a, et de trouver ce qu'on appelle un accord sage et durable, et qui du coup permet toute une palette de solutions, permet de trouver finalement un accord où il y aura des tas de choses que les juges ne prendraient jamais en compte. Et donc, ça permet d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus inventif, et surtout que ce soit les gens qui vont petit à petit construire la manière dont ils vont résoudre leurs problèmes, ici par exemple de séparation, avec l'aide de leurs avocats, parce que chacun aura un avocat, et donc ça va être petit à petit un processus où il y aura des rencontres à quatre. Et là, il y a tout un système très important que les avocats ne pratiquent pas trop sinon, qui est toutes les méthodes de communication non violente et qui sont un peu des règles de base. Et par exemple, en résumé, au début, chacune des parties va exprimer tout ce qu'elle a exprimé. De ça, on va chaque fois essayer de tirer quels sont les sujets, quelles sont les questions, quelles sont toutes les pistes qu'on peut imaginer. Mais chaque fois qu'il y en a un qui parle, l'avocat de l'autre va reformuler ce qu'a dit le mari ou la femme, qui va l'entendre comme en médiation dans la bouche de son ancien partenaire, mais qui va l'entendre formuler avec les mêmes mots et avec empathie par son propre avocat, ce qui va permettre tout à fait une autre écoute. Enfin, voilà, et vice-versa, et petit à petit, on avance. Enfin, c'est un processus qui prend le temps qu'il faut selon les conflits, mais que l'idée, c'est vraiment qu'on trouve un accord. Et si au bout du processus, on signe une charte au début, si au bout du processus, il n'y a pas d'accord, tout le monde se retire. Les avocats et leurs collaborateurs n'interviennent plus. Donc les parties recommencent, si elles veulent aller en procès, avec un autre avocat. Enfin, en procès contentieux, parce qu'on peut dire, aussi se mettre d'accord qu'il y a certaines questions, ben, on a un accord, mais on va quand même le faire homologuer dans un jugement pour une question de sécurité juridique. Enfin voilà, mais je trouve ça très intéressant, et je crois qu'il y a moyen de... Apparemment, en Belgique, il y a 90% de réussite dans les gens qui se lancent dans ce genre de processus.
De gens qui sont satisfaits à la sortie.
Oui, qui trouvent un accord. Donc l'idée, c'est âgé durable, c'est que c'est pas arracher une signature au bout de... C'est qu'il... Ouais. Donc il y a aussi une obligation de totale transparence et sincérité. Toutes les infos, même les plus intimes, enfin, du genre là, un amant par exemple, l'autre ne le sait pas, mais on va tout dire. Les avocats seront en possession des documents importants, par exemple, même si on a des revenus au Luxembourg, on est censé les déclarer. Mais on ne va pas communiquer à l'autre avocat. Enfin, les avocats vont les voir, mais on ne va pas communiquer aux adversaires en personne. Ils pourront les voir dans l'avocat. Donc, on ne va pas donner toutes les armes aux autres pour lesquelles on se retrouve en procès, mais on fonctionne en confiance. Et donc, il y a une obligation aussi pour les avocats de ne pas abîmer les relations entre les personnes. Et donc, de ne pas les empirer, ce qui se passe malheureusement souvent dès qu'on est en contentieux, même si on essaie de trouver des accords. Et des... Bon, ça... Voilà. Donc tout ça, je trouve ça très intéressant. Et par rapport à cette problématique de la violence, moi, je vois aussi beaucoup de problèmes de violence qui se passent dans les familles. Ouais. Et je pense que ça peut être désamorcé par ce type de processus.
Évidemment. Et dans l'activité qui était proposée aujourd'hui, il y avait quelque chose en particulier qui vous attirait?
J'avais entendu promenade dans le quartier, voir comment... je ne sais pas si c'est améliorer ou imaginer les environs, l'environnement, disons, à tout point de vue, de manière plus positive ou même idéalisée. Donc ça, je trouvais intéressant aussi.
Ouais.
Je trouve que l'axe qui va de la gare à la commune, par exemple, dans ce quartier-ci, avec toutes les petites rues, il y a certainement beaucoup de choses à faire.
Ouais.
Et c'est vrai que, par exemple, je me suis déjà fait la réflexion que quand je suis à vélo, si je sors sans ma voiture, disons, le soir, moi, je ne serais pas à l'aise de rentrer tard seule, à pied, disons, de la maison communale à chez moi, ce qui est vraiment pas long.
Mais ça permet peut-être
ça
de
la sécurité,
d'avancer, aborder la deuxième partie. Donc, on avait imaginé que chacune choisissait au moins un, mais peut-être plus, un endroit sur la carte dans lequel vous vous sentez à l'aise. Que vous aimez dans le quartier et un ou plusieurs endroits dans lesquels vous ne vous sentez pas à l'aise, que vous avez des problèmes, vous dites ça, pour moi, il faut changer quelque chose. Donc, l'idée, c'est de construire la balade à partir de ces endroits. Comme le périmètre est assez petit, on peut, on peut facilement le parcourir. Ça, c'est la commune. Donc, je ne sais pas, toi, tu avais déjà proposé la balade, ton chemin.
Moi, j'ai ici des pions pour mettre les endroits. Il y a trois couleurs.